Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, au Soudan du Sud, une situation presque sans espoir. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU du pays fait un tour d'horizon de la situation. 2014 a laissé la plus jeune nation du monde au bord du gouffre. Près de 6 millions de personnes, soit la moitié de la population du pays, ont besoin d'une aide humanitaire élémentaire, nourriture, eau, médicaments essentiels, assainissement. Pour Toby Lanzer, en 2015, la première priorité pour le Soudan du Sud, c'est la paix. S'il y a une réelle cessation des hostilités, tout est possible dans ce pays qui regorge de ressources et a un fort potentiel. Bonne écoute.
On est entré en 2015 avec un bilan de 2014 qui est très, très, très grave pour le pays. On a eu presque 2 millions de personnes déplacées de leur foyer. Des gens qui ont perdu leur travail, dont 500 000 qui ont pris fuite jusqu'aux pays autour du Sud-Soudan, des pays comme le Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya. Une situation économique au Sud-Soudan qui est vraiment très, très faible, avec une production pétrolifère qui a baissé plus que 50% en comparaison avec 2013. Donc, une situation très grave et on n'est pas sûr qu'il y a la paix qui arrive bientôt. Donc, on entre 2015 avec une situation humanitaire très grave, avec une situation politique très compliquée et sans savoir s'il y a vraiment une solution qui nous attend bientôt.
Très difficile. Quelles vont être les priorités pour 2015 étant donné la situation?
Écoutez, je pense que la première priorité pour tout le monde au Sud-Soudan, c'est la paix. Et j'espère bien que les leaders politiques ici, des deux côtés de ce conflit interne, qu'ils sont conscients de ça, qu'ils font tout le possible pour trouver la paix. Parce qu'avec la paix, tout est possible dans ce pays. Sans la paix, rien n'est possible. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est sauver les vies. C'est une chose très simple, mais très, très importante et très aiguë en même temps. On a plus que 10 millions de personnes, dont 50% de la population du pays, qui ont besoin de l'aide humanitaire. Et c'est vraiment une aide humanitaire très basique, très simple. Aide alimentaire, des médicaments essentiels, de l'eau, de l'assainissement. Des gens qui survivent presque ou juste dans une situation extrêmement grave et difficile de décrire vraiment plus que ça parce qu'on est dans une situation presque sans espoir.
Est-ce que l'OCHA, est-ce que les humanitaires ont prévu de continuer à fournir cette aide sur l'année?
Bien sûr, pendant 2014, on a eu la possibilité de monter une action humanitaire massive ici au Sud-Soudan et on va continuer avec ça pendant 2015. Je suis convaincu que les bailleurs de fonds vont appuyer les agences onusiennes, les ONG qui travaillent ici parce qu'il n'y a rien d'autre. Il y a un gouvernement qui ne peut pas aider des gens, il y a une opposition qui ne peut pas aider les gens actuellement. Donc, il y a tellement de personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire qui m'ont dit même, sans vous, il n'y a rien. Donc, je suis bien conscient qu'avec l'appui des bailleurs de fonds, avec l'action humanitaire des agences onusiennes et des ONG, on va pouvoir continuer le programme qu'on a monté ici l'année passée. Mais la vraie solution, c'est la paix. Et c'est une cessation de feu qui est vraiment nécessaire maintenant ici au Sud-Soudan. Les gens ne peuvent plus avec la situation actuelle.
La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à ce conflit oublié, celui du Soudan du Sud, conflit qui a fait en 8 mois des centaines de milliers de morts, 1,5 million de réfugiés et un tiers de la population qui est aujourd'hui
au Soudan. Est-ce que c'est la résurgence d'une guerre civile ou vraiment la bataille entre deux hommes ?
C'est la bataille entre deux hommes.
Un pas vers la paix au Sud-Soudan. Ce vendredi 9 mai, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont signé un cessez-le-feu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne.
Cette crise au Soudan du Sud, des membres de la société civile sud-soudanaise participant au pourparlers de paix à Addis Abeba ont accusé tant le gouvernement que les rebelles.
La société civile est frustrée en raison des délais des pourparlers menés entre le gouvernement et les rebelles.
Alors, l'ONU a été apportée en 2014 à vraiment avoir un volet de protection civile, y compris sur les bases de sa mission dans le pays. Est-ce que l'ONU s'attend à jouer ce même rôle au niveau de la protection civile en 2015 qu'en 2014?
Effectivement, pendant 2014 et depuis le début du conflit en décembre 2013, on a eu des milliers de personnes qui sont entrées dans des bases militaires, en fait, les bases de la force de maintien de la paix ici, pour fuir de la guerre et pour se protéger. Plus de 100 000 personnes qui restent actuellement sur nos bases. Oui, bien sûr, nos bases sont là pour protéger les civils, pour appuyer les femmes, les enfants, etc., qui ont besoin de l'aide. Et on va continuer avec ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de personnes qui sont dehors de nos bases, qui sont dans toutes les régions du pays presque, qui aussi ont besoin d'être protégées. Et la mission au maintien de la paix et les agences onusiennes font tout le possible pour les atteindre et être à leur côté pour les protéger. Donc oui, on va continuer avec ça. C'est un défi énorme pour nous, pour toute l'ONU et nos partenaires ici. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et j'ai dit au long de 2014 qu'on va rester, on va faire notre travail. Lamentablement, on est dans cet espace ici en Sud-Soudan. On voulait bien être dans un espace de développement, de paix, de construire le pays le plus jeune au monde, mais lamentablement, il y a eu ce conflit qui continue même aujourd'hui.
Si la sécurité n'était pas un problème, nous pourrions nous débrouiller par nous-mêmes. Mais la situation sécuritaire n'est pas bonne, comme vous le savez. Même lorsque vous envoyez ces dames au marché, elles se font agresser, les enfants sont tués. C'est pour cela que nous voulons rester ici. Il y a tellement de gens qui ont été tués. C'est pour cela que nous venons au camp de l'ONU, ici, pour être protégés.
Vous avez justement souligné qu'en fait c'est la paix, la cessation des hostilités et le retour à la paix qui est essentiel pour changer la situation. Où en sommes-nous dans ce processus politique et dans les négociations de la paix?
Écoutez, franchement, je suis un peu déçu avec le manque de résultats concrets dans ce processus de paix. Il faut reconnaître une chose, que ce n'est pas la communauté internationale qui va imposer la paix ici. Ça doit être une paix sud-soudanaise, une paix qui arrive avec le travail ou grâce au travail des sud-soudanais. Donc c'est vraiment à eux, les leaders ici, de négocier avec un esprit constructif et avec un savoir-faire de vouloir reconstruire ce pays et donner un esprit de réconciliation entre les communautés qui ont participé dans ce conflit. Donc actuellement, j'espère bien que les discussions qui ont lieu en Tanzanie et à Addis Ababa, même que ça donne des résultats concrets, parce que c'est vraiment ça que la population attend. Tout le monde nous dit on veut avoir des signaux qui nous montrent que l'heure est arrivée, la paix arrive, on peut rentrer chez nous, on peut construire nos vies. Donc, espérons bien qu'on y arrive cette année.
Vous avez aussi mentionné qu'en fait, sur le plan économique, le pays était dans une situation assez catastrophique, avec notamment une production pétrolière qui avait chuté de 50%. Est-ce que cela est directement et exclusivement lié au conflit? Et est-ce qu'il y a une façon d'y remédier? Est-ce que l'ONU va mettre sur pied des plans d'une quelconque stimulation ou aide économique, ou c'est pas du tout dans les possibilités?
Je pense que nos engagements dans le plan économique ici dépendent vraiment de la paix. Et quand je dis nous, c'est vraiment pas seulement les Nations Unies, c'est aussi les bailleurs de fonds qui ont le même point de vue. Sans avoir une paix durable ici, c'est pas vraiment le moment de commencer à faire des investissements, même dans le secteur pétrolifère. Donc, oui, il y a une baisse très aiguë. C'est lié au conflit, c'est lié aussi au prix mondial qui baisse, qu'on a vu tomber dernièrement, le prix du pétrole. Mais surtout, c'est le conflit qui est en train de détruire l'économie de ce pays, de détruire les espoirs de la population, détruire quand même les probabilités que Sud-Soudan devient un pays développé dans un avenir court terme. Donc, encore une fois, c'est la chose la plus importante, c'est stabilité politique, cessation de feu total et une paix durable que permet une réconciliation sérieuse entre les différentes communautés ici. C'est possible, mais ce n'est pas facile et je pense qu'avec un travail sérieux des futures années et même, c'est possible qu'on y arrive cette année.
Alors, 500 000 Sud-Soudanais se retrouvent dans les pays limitrophes, les pays voisins, réfugiés. Alors, justement, quel est l'impact de la crise au Soudan du Sud dans la région?
Écoutez, c'est énorme parce que les pays limitrophes ne sont pas très riches eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une situation comme dans des autres régions du monde où quelqu'un fuit de son pays et trouve un refuge dans un pays qui peut vraiment donner la bienvenue. Donc moi, je trouve exceptionnel le rôle d'Éthiopie, d'Ouganda, même du Soudan, de Kenya, de tous les voisins de Sud-Soudan qui ont ouvré leurs portes aux civils de Sud-Soudan qui ont pris fuite. Mais ça met de la pression quand même sur l'économie, sur les communautés autres qui habitent dans cette région voisine de Sud-Soudan. Et je pense que ces pays sont aussi assez frustrés avec la situation ici à Djouba. Donc, une solution qui permet les gens à rentrer chez eux, ça serait vraiment formidable et espérons bien que ça arrive bientôt.
Alors justement, dernière question, qu'espérez-vous voir d'ici décembre 2015?
La chose que je veux plus que rien, c'est vraiment une situation de paix, une cessation de feu qui existe dans la réalité, pas seulement sur le papier, et des pas concrets pour une réconciliation sérieuse entre les différentes communautés. Parce qu'avec ça, tout est possible au Sud-Soudan. C'est un pays avec des ressources énormes, avec un potentiel très très fort, et vraiment, ça va dépendre du leadership même des différentes factions ici au Sud-Soudan. Mais c'est vraiment possible et espérons bien qu'ils y arrivent.
Et c'est avec le plaidoyer pour la paix au Soudan du Sud de Toby Lanzer que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal de la Radio des Nations Unies par podcast ou sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.